Oui, c'est vrai. On a essayé de trouver d'abord une pièce, parce que c'était pas... il y a quelques années qu'on pense déjà à ça. Alors, on en a lu beaucoup, on nous a proposé, mais il fallait une pièce qui soit dans notre univers quand même, où il y ait les deux rôles principaux qui étaient quand même équivalents. Et on n'est pas vraiment flashé, comme on dit, sur quelque chose. Et puis, pour finir, on avait un peu quand même aimé une pièce anglaise qui était à huis clos, puis on n'a pas eu les droits, donc on a encore perdu un an avec ça. Et pour finir, plusieurs personnes nous ont dit ben, « Écrivez, on s'y est mis, on s'est mis à l'écriture. » C'est venu relativement bien, et on avait un petit peu un doute au départ. On a une appréhension quand les premières personnes ont lu la pièce, mais on a plutôt eu des retours positifs. Et donc, ça nous a conforté à la montée, et puis de travailler à la mise en scène avec Alain Saxe.
Ah ! Ah ! Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que je fous ici ? Détachez-moi le mur ! Mais passe-nous là, voyons!
Est-ce que c'est un cadeau de se dire, ben finalement, ça fait 20 ans qu'on travaille sur un esprit d'humour, on n'a pas trouvé la pièce qui nous correspond, ça veut dire que nous, on a vraiment créé quelque chose à part et on doit continuer dans cette ligne parce qu'on a vraiment un humour qui se trouve nulle part ailleurs.
Oui, ce que vous dites, je pense que c'est, même si au départ, c'était pas vraiment calculé, je pense qu'on n'en a pas pris conscience peut-être les premières années de notre duo. On pratiquait un humour qu'on aimait, point. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas tellement nombreux à aller dans ce style d'humour. Et puis quand on a eu la chance de rencontrer, fin des années 90, Raymond DeVos, qui est devenu notre parrain et notre producteur à l'époque, il nous avait souligné cet aspect. Il a dit, voilà, moi ce que j'aime chez les frères Taloche, c'est votre univers. Et faites toujours attention de ne pas le perdre. Donc on a retenu ça dans un coin de notre petite tête. Et quand on a créé la pièce... On n'a pas voulu jouer aux comédiens ou faire penser à tel ou tel. On s'est dit, il faudrait qu'on écrive quelque chose qui nous correspond. Donc oui, on est maintenant conscient, après 24 ans, c'est bien, qu'on a quelque chose peut-être d'à part et on est vigilant pour ne pas perdre ça.
Alors, Monsieur Pierre Falgarder, on fait moins le malin maintenant. On est moins fiers sans ces milliards.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne suis pas Pierre Falgarder, voyons.
Mais oh, ça ne sert à rien de nier. Je sais très bien qui vous êtes. J'ai tout préparé. Je n'ai rien laissé au hasard. Hein, Pierre Falgarder, seconde fortune d'Europe.
Mais enfin, vous êtes malade ou quoi? Je ne suis pas Pierre Falgarder, je vous dis.
Bien essayé, Monsieur Falgarder, bien essayé. Tout le monde sait qui vous êtes. Tout le monde. Pierre Falgarder, au fil des années, a réussi à bâtir un véritable empire spécialisé dans l'industrie sidérurgique.
Alors l'histoire de la pièce, hein, c'est l'histoire d'un kidnapping. Vous, Vincent, vous êtes dans une situation un petit peu incroyable. Vous avez un vidéoclub, mais évidemment avec des VHS, ça marche plus trop bien. Donc c'est la première descente avant la cave. Et vous décidez de kidnapper un milliardaire, mais vous êtes tellement mal organisé que finalement ça se passe pas comme prévu.
C'est tout à fait ça en fait. Moi je suis tout sauf un méchant, donc je suis un gars qui est vraiment au bout du rouleau. C'est-à-dire, comme vous l'avez souligné, son affaire commerciale est vraiment catastrophique. Très vite, on apprend que sa vie privée est aussi problématique. Et ce type, qui n'est sûrement pas méchant, se dit « je n'ai plus d'autre solution que de trouver de l'argent d'un moyen ou d'un autre ». Et il se dit « pourquoi pas un kidnapping ?». Mais comme il est complètement maladroit, c'est son premier kidnapping, et très vite, on va s'en apercevoir.
Ça ne sert à rien de vous énerver, c'est un fou.
Comment ça, c'est un fou?
Ah oui, c'est un pistolet d'alarme.
Pistolet d'alarme.
Ah oui.
Comment ça, pistolet d'alarme?
Depuis le début, vous me menacez avec un faux revolver.
Ah oui, c'est comme les menottes.
Quoi, les menottes? Ce sont des fausses. J'ai jamais réussi à trouver des vraies. C'est des menottes de sex shop. Donc je résume. Vous enlevez la mauvaise personne, vous me menacez avec un faux revolver, les menottes sont fausses, mais qu'est-ce qu'il y a vrai dans cette histoire, hein? La porte?
C'est vrai qu'on entend des faits divers comme ça, où il y a quelqu'un qui est vraiment acculé parce qu'il a beaucoup de problèmes, qui pète un câble et qui, à un moment donné, prend un flingue, rentre dans une banque ou kidnappe quelqu'un ou fait une action qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. Il est vraiment acculé. C'est le rôle du personnage de Vincent. Et moi, je me retrouve un petit peu, par erreur, arrêté dans cette cave avec lui. Et on est confronté à ce moment-là à partager du temps ensemble parce que, pour diverses raisons, il a la porte s'est refermée et on est obligé de cohabiter. Et cette cohabitation, au départ, n'est pas facile. On essaie de trouver d'abord des moyens pour sortir de cette cave, on essaie de s'occuper, on essaie de boire, de manger. Et puis après, il y a quand même ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement des deux personnages, des deux personnalités. Et après, on ne dit pas la fin, évidemment, mais ces deux personnages passent quand même du bon temps ensemble à la fin de la pièce. Ils sont vraiment obligés de partager ce temps.
De toute façon, tout est foutu. Foutu. Je suis ruiné.
Ma fille ne me parle plus. Mon fils se drogue. Mon père est malade. Mon chien est en dépression. Enfin, ou le contraire, je ne sais plus.
Et je parie que votre femme est partie. Hein?
Bah non, elle est restée. C'est justement ça le problème.